Marco Dispaltro a remporté la médaille de bronze aux Jeux paralympiques de 2012. Il a un solide historique en parasport, que ce soit en rugby en fauteuil roulant ou en tennis au fauteuil roulant ou encore en boccia, un sport qu'il pratique toujours aujourd'hui. On le reçoit à l'émission et je suis bien heureux parce que c'est une personne qui a côtoyé de près le milieu du rugby en fauteuil roulant et on sait que c'est un sport assez physique. Est-ce que c'est un sport qui peut entraîner des blessures, notamment des commotions cérébrales? Comment prévenir ces fameuses commotions? On va également s'entretenir avec Brian Morin, conseiller en sécurité au ministère de l'Éducation, au sujet d'un nouveau protocole que le gouvernement québécois a dévoilé cet été. Bonjour Marco Dispaltro.
Allô Kevin, ça va bien?
Oui, ça va bien, merci. Peut-être pour les gens qui connaissent un petit peu moins ton parcours, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec le rugby en fauteuil roulant?
Ben moi, mon expérience avec le parasport, ça a commencé justement avec le rugby en 1993. J'ai été joueur actif jusqu'en 2002. Ensuite de ça, je me suis recyclé au coaching là, jusqu'en 2011.
Puis, ben, vous avez côtoyé donc des athlètes en tant que joueur, mais également en tant qu'entraîneur et en tant que coordonnateur. Est-ce que le rugby, sa réputation de sport violent, elle est faite ou c'est un peu un mythe?
Ben, c'est un peu un mythe parce que c'est les fauteuils hein, qui absorbent le coup davantage. Là. Fait que des chutes, ils vont en avoir de temps en temps. Là. Dans un match, il va peut-être en avoir 3-4. Mais c'est vraiment le fauteuil qui absorbe la majorité de l'impact. Si on regarde côté blessure, ben, habituellement, ça va être des blessures aux doigts, ça va être des blessures aux épaules. Là. Fait qu'ils sont quand même assez chanceux pour l'instant avec les commotions cérébrales. Là. C'est pas monnaie courante. Là. C'est sûr que ça arrive, là, mais c'est pas monnaie courante.
Ces fauteuils roulants-là qui absorbent le choc dont vous nous avez parlé, ce qui est intéressant, c'est que c'est véritablement des chars d'assaut. Donc, c'est là qu'on peut effectivement, comme vous le dites, se coincer un doigt, par exemple, ou se faire mal. Est-ce que vous avez déjà connu des blessures quand vous étiez joueur de rugby?
Moi, j'ai été très chanceux dans ma carrière de sportif en fauteuil roulant. J'ai pas manqué encore une journée de pratique suite à des blessures. Là. Mm-hmm. Fait que si tu y vas quand même, écoute, ça m'est arrivé des fois de me faire mal aux doigts un peu, de me coincer les doigts là, entre ma roue puis les ailes sur le fauteuil. C'est vraiment pas plaisant, là. Mais à part des petites blessures comme ça, là. Il n'y a vraiment rien dans ma carrière, moi, que j'ai vécu là, qui était très difficile, là, de grandes blessures.
Qui vous ont tenu à l'écart du jeu longtemps.
Oui, voilà.
Moi, je suis moi-même une personne en fauteuil roulant. J'ai jamais essayé le rugby parce que j'ai trop peur de l'essayer. Mais une chose dont j'ai toujours peur, en fait, quand je suis en fauteuil roulant, c'est de basculer ou de verser vers l'arrière parce qu'on est une position très vulnérable en tant que personne en fauteuil roulant, de tomber sur le dos parce que c'est plus difficile de se retenir avec ses mains, avec ses abdominaux. Est-ce qu'il y a une prévention qui est faite de ce côté-là, du côté des joueurs, pour éviter les chocs à la tête en tombant vers l'arrière?
Écoute, ça dépend toujours de ton handicap. Hein? Si nous, quand on joue au rugby, la plupart des joueurs, c'est des tétraplégiques, fait que des muscles au niveau des abdominaux, ils n'ont pas vraiment de muscles. Fait qu'habituellement, s'ils tombent par en arrière, bien, c'est la tête qui va frapper en premier. Mm-hmm. Puis, tu sais, au rugby, il y a eu quelques joueurs dans le passé qui ont joué avec des casques, mais je pense qu'il y a encore un peu... C'est un sport un peu macho, là, puis moi, je trouve ça un peu pas nécessairement déplorable, mais j'aimerais ça qu'il y ait plus de joueurs qui jouent des casques, parce que c'est quand même un danger qui guette les joueurs, parce que, tu sais, si tu subis un contact par en arrière, puis tu tombes par en arrière, bien, c'est souvent la tête qui va donner contre le sol. Mm-hmm. Tu sais, comme je vous dis, au rugby, ils ont été chanceux, ils n'ont pas eu des grandes, grandes blessures, mais ça pourrait arriver, puis moi, je trouve ça un peu dommage là, qu'ils ont plus une attitude de réactive là, concernant ces choses-là.
On attend qu'un incident se passe pour réagir. Mm-hmm. Peut-être qu'éventuellement, dans le futur, on va regarder la situation des casques au rugby de la même manière qu'on regarde aujourd'hui les visières au hockey. Là, aujourd'hui, voilà. Presque tout le monde en a. On souhaite arriver là, mais en ce moment, c'est admis, mais c'est pas obligatoire de porter le casque dans les niveaux internationaux.
Non, puis c'est pas vraiment quelque chose qui est important pour eux pour l'instant, là. Fait que, mais ça, c'est suite quand même à des études qu'ils ont faites là, pour essayer de voir avec les joueurs puis les différentes fédérations là, sur beaucoup de blessures relatives aux commotions cérébrales, parce qu'eux travaillent étroitement avec le rugby union, fait que le rugby conventionnel, le rugby là, qui joue
sur les pieds, sur les pattes.
Sur les pieds, voilà. Puis, ils ont une liaison très étroite avec eux, puis ils ont un protocole qui va bientôt faire son apparition là, officiellement, là. Fait que là, c'est pas mal. Ils ont leur protocole déjà, mais il va être affiché là, dans le prochain mois là, sur leur site Internet, là, savoir comment vraiment gérer les commotions. Parce qu'au niveau, t'sais, au niveau international, écoute, il y a des physios, il y a des docteurs qui sont toujours présents, mais au niveau régional, souvent, des petites compétitions,
Il n'y a pas de
il n'y a pas.
spécialiste.
C'est ça, voilà.
D'ailleurs, on va en parler plus longuement avec Brian Morin dans la deuxième partie de l'émission. Puis on va suivre avec intérêt ce protocole qui va être dévoilé sur le site de la Fédération de rugby. Marco, vous m'avez également déjà parlé d'un incident particulier qui s'était passé en 2008 où, heureusement, vous n'avez pas été témoin de beaucoup de blessures dans votre carrière. Mais en 2008, vous avez eu une bonne frousse avec un de vos coéquipiers. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça s'est passé?
Ben ça, c'est un jeu au rugby, le terrain, écoute, c'est la grandeur d'un terrain de basketball, fait qu'il y a quand même 25 mètres. Fait que sur des longues passes, c'est arrivé, on a mis le ballon en jeu, puis il y a eu une longue passe qui est effectuée, puis un de nos joueurs, il a fallu qu'il revienne à contre-courant pour aller capter le ballon. Puis c'est un de nos plus petits joueurs, là, un genre de joueur là, qui était 50, 55 kilos. Puis pour l'autre équipe, ben, ils s'attaquaient à lui. Là, ils ont un départ d'à peu près 15 mètres. Puis c'était trois colosses, là, des joueurs d'une 75 à 100 kilos. Puis ils l'ont vraiment frappé très fort. Puis Daniel Paradis, il a passé, c'était notre joueur. Fait qu'il s'est fait frapper. Puis il a comme volé un peu dans les airs. Puis il est tombé face première là, contre le fauteuil, puis contre le sol un peu. Ça, c'est vraiment une des pires affaires que j'ai vues au rugby, mais ça arrive. Puis, tu sais, dans d'autres sports, habituellement, les joueurs qui sont les plus petits sont les plus rapides, mais au rugby, souvent, les joueurs qui sont les plus petits sont les plus vulnérables. Fait que c'est toujours quelque chose, ça, qui m'inquiète. Puis quand tu vois un joueur là, se frapper de cette façon-là, puis de voler littéralement dans les airs, puis se péter la tête contre le plancher, là,
Puis en plus,
c'est
il
un
y a
des
toutes
moments.
sortes d'obstacles autour, comme des fauteuils qu'on a dit qui étaient des véritables chars d'assaut. On aurait pu penser, par exemple, qu'il aurait pu se crever un œil, là, votre coéquipier.
Oui, mais ça, c'est vraiment une des pires conditions que j'ai vues, parce qu'habituellement, écoute, les joueurs sont assez respectueux les uns des autres. Mais ça, tu sais, dans le feu de l'action, mais tu vois un joueur qui est en position vulnérable, fait que tu veux le frapper de toutes tes forces. Fait que c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a marqué, puis c'est quelque chose que je trouve au rugby, étant donné la grande différence souvent entre les gabarits et le niveau de fonction, c'est quelque chose qui me stressait beaucoup là, quand j'étais
Votre
entraîneur, puis même
cœur
joueur, puis
débattait.
même là, en tant que spectateur aussi, tu ne veux pas voir quelqu'un se faire blesser grièvement, là.
On parlait tantôt que, ben, au moins, l'avantage que les compétitions d'envergure ont, c'est qu'ils peuvent souvent compter sur un physiothérapeute ou en tout cas un spécialiste de la santé qui est alerte pour prévenir les coups à la tête, contrairement peut-être aux événements régionaux. Dans le cas de cet incident particulier-là de votre coéquipier Daniel Paradis, vous avez été chanceux parce que vous avez quelqu'un dans votre équipe qui a tout de suite été alerté par le jeu, là.
Oui, puis ça, c'est important. Puis tu sais, avec tout ce qui se passe dans le monde là, concernant les commotions cérébrales, tu sais, même nos arbitres là sont au rugby, j'en connais plusieurs arbitres encore, puis ils regardent attentivement ça, puis s'ils voient qu'un joueur est en difficulté, soit pour une commotion cérébrale ou soit pour une autre blessure, ils vont arrêter le jeu immédiatement. Fait que je pense que les gens sont plus conscients là, des dangers qui nous guettent dans le sport. Puis c'est vraiment pas comme. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, puis je jouais au hockey, là, on parlait pas de ces trucs-là pantoute. Puis c'est vraiment cool là, que c'est rendu quelque chose là qu'on prend en considération. Puis moi, je trouve ça. Le sport, c'est beaucoup plus sécuritaire que ce que ça l'était. Puis j'espère que ça va continuer dans cette veine-là.
Oui, on est beaucoup plus attentif, mais en même temps, le rugby en fauteuil roulant ou le basketball, par exemple, en comparaison du hockey où il y a beaucoup d'arrêts de jeu, dans le rugby, vous êtes constamment dans le feu de l'action, ça rajoute une couche de difficulté pour détecter des symptômes.
Oui, ça c'est sûr, parce qu'au rugby, écoute, il y a beaucoup de sifflets, mais tout de suite, la balle est remise en jeu. Fait que un match de rugby, en principe, c'est 32 minutes, c'est 4 quarts de 8 minutes, mais un match, ça dure 1 heure et quart parce qu'il y a toujours du mouvement. Puis ça bouge beaucoup. Fait qu'effectivement, c'est quelque chose ça, que les gens, je pense que les spécialistes sont un peu plus attentifs, puis ils ont le pouvoir aussi de les arbitres ont le pouvoir d'arrêter le jeu, puis le délégué technique aussi, s'il voit quelque chose d'outrageux. S'il y a un des spécialistes qui va voir immédiatement le délégué technique, bien, le délégué technique va pouvoir arrêter le jeu aussi, là, s'il
OK.
voit quelque chose là, de vraiment anormal.
Ah, donc il y a toujours quelqu'un d'associé à chacun des matchs qui a l'œil sur ce type de blessure.
L'œil sur ce type de blessure, puis d'autres choses en particulier, mais vraiment, dans le passé, c'était plus pour voir s'il y avait des situations un peu complexes avec l'arbitrage, s'il y avait des problèmes avec le score, puis tout ça. Puis là, bien, une des nouvelles facettes qui est ajoutée, c'est plus la facette là, médicale, là, qui tout le monde est un peu plus à l'affût de ça.
On l'a tous ajouté un petit peu à son cursus
Oui.
lors des matchs. Vous en avez parlé, Marco, de la différence de gabarit et de fonction au sein des équipes. C'est pour ça qu'en introduction, je me demandais, est-ce que les athlètes paralympiques sont plus vulnérables ou susceptibles de subir des blessures? Parce que, expliquez-nous comment ça fonctionne. Au sein d'une équipe, là, on peut se retrouver avec un colosse qui a plus ou moins un gros handicap versus quelqu'un qui a un handicap lourd dans le même match.
Oui, fait que ça, c'est au rugby, mais ça, c'est côté classification, parce qu'au rugby, ben, tu passes une panoplie de tests quand tu commences, c'est la classification. Puis suite à la classification, ben, ils voient le niveau de force que tu as dans les bras, dans les mains, au niveau des abdominaux, puis là, ils t'attribuent un score. Fait qu'au rugby, ça va de 0,5, qui est un joueur qui est très faible. Fait que pour vous donner une idée, le joueur 0,5, il n'y aura aucune force dans les abdominaux, il n'y aura pas de force dans les triceps, il va avoir des bons biceps. Puis les mains vont être essentiellement dégainées. Là, les mains ne servent pas grand-chose. Fait que là, on parle, le point 5 va ressembler un peu à ça. Puis évidemment, il ne marche pas non plus. Puis le joueur 3,5, par contre, lui, va avoir toute la force au niveau des abdominaux. Il va avoir, si on regarde au rugby spécifiquement, ben, on parle d'amputés. Fait que les amputés qui sont admissibles de jouer au rugby, il ne faut pas qu'ils aient de mains. Ou si on a des mains, il faut que ce soit vraiment juste peut-être les jointures, des trucs comme ça. Parce
Donc,
que
quelqu'un qui
sinon,
est
ils ne sont pas
amputé à
admissibles.
la jambe n'est pas éligible. Si quelqu'un a
Non,
seulement... OK. Parce qu'il y a
il faut
toujours...
vraiment qu'il y ait des limitations au haut du corps, là, au niveau des mains surtout, parce que si tu es capable de prendre le ballon facilement avec une main, c'est sûr que tu n'es pas admissible. Mais tu peux avoir des joueurs qui leur manquent, disons, 4 doigts sur 5 sur une main, puis l'autre main, ils n'ont pas de doigts du tout. Puis aussi au niveau des jambes, bien, ils ont des amputations aussi au niveau des jambes. Mais ça fait en sorte qu'ils sont quand même très, très forts. Puis tu sais, si tu es capable d'avoir de la force au niveau des abdominaux, puis au niveau des hanches, lors d'un contact, là, si tu peux faire des contacts vraiment percutants, parce que moi, je me rappelle quand je jouais, toi, tu n'étais pas le plus colosse, puis moi, je suis atteint de dystrophie musculaire, fait que j'avais une bonne force au niveau des abdominaux. Fait que souvent, moi, j'étais comme 60 kilos, puis je pouvais frapper des joueurs qui étaient 100 kilos de front, puis je pouvais les mettre au sol, simplement avec ma force au niveau des abdominaux puis des hanches. Fait que quand tu prends un joueur qui, en plus, est capable de générer beaucoup de vitesse, puis qui va foncer dans un joueur qui est très limité, comme le joueur 0,5, là, le 0,5 va voler littéralement.
Mais dans ce cas-là, ce grand écart-là, est-ce que ce serait possible de créer deux catégories selon le pointage ou s'il n'y a pas un assez grand bassin de joueurs disponible?
C'est justement au rugby, c'est un sport qui est quand même assez spécifique, le côté handicap, fait que le bassin de population, selon moi, ne serait pas assez élevé pour faire ça, à moins qu'un jour qu'ils commencent à accepter que les paraplégiques puissent jouer. Fait que là, tu pourrais avoir une ligue, une super ligue, où ce que les joueurs seraient beaucoup plus forts physiquement, où ce qu'il y aurait juste un minimum d'handicap, comme dans d'autres sports, comme au volleyball assis, comme au hockey sur luge. Fait que ça, tu pourrais peut-être voir le jour là-dessus, mais pour l'instant, au rugby en fauteuil roulant, moi, ce que j'aimerais voir, c'est que les joueurs qui sont amputés soient avoir un pointage encore plus haut que 3,5, disons un 4 ou un 4,5, pour limiter le nombre de joueurs amputés que tu peux avoir sur le terrain, parce qu'au début, le rugby en fauteuil roulant a été créé pour les joueurs qui étaient tétraplégiques. Puis ils n'ont
Ça
jamais vraiment
permettrait de
pensé.
rééquilibrer un petit peu le pointage.
Voilà.
C'est une des solutions également, peut-être comme solution, d'interdire les coups par derrière. Vous me l'aviez mentionné hors micro. Merci beaucoup pour ces suggestions, Marco, puis nous avoir fait un aussi bon portrait de la situation. On va suivre vos activités au championnat de boccia qui va avoir lieu en Angleterre prochainement. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui, Marco.
Merci beaucoup, Kevin.
Nous, on reprend dans un instant avec Brian Morin, conseiller en sécurité au ministère de l'Éducation.